déjà midi 27. Donc, alors on avance un peu plus vite. Alors qu'est-ce qui se passe donc dans la différence entre maintenant entre Pessah et Shavuot? Je vous ai dit, Pessah, il y avait dans tous les cas l'offrande des Saorim, c'est-à-dire de l'orge. Shavuot, c'est l'offrande du blé. Tout le temps du Homer, qu'on appelle le temps du Homer, c'est ces 50 jours que la Torah prévoit dans ce verset-là, pendant lesquels on va compter jour par jour le temps qui nous sépare, qui sépare Pessah de Shavuot. Mais le mot de Homer, ça veut dire la gerbe qui sera apportée au temple. Ce n'est que beaucoup plus tard que le mot de Homer va prendre un sens de deuil. Mais ça, je vais expliquer bien après. Ne vous trompez pas. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre part dans l'histoire? Eh bien, le Midrash explique que Pessah est au niveau de la libération des corps. Et c'est pourquoi l'offrande qui est apportée à Pessah, c'était l'offrande de l'orge qui est la nourriture de l'animal. Alors qu'à Shavuot, c'est la libération de l'esprit. Et c'est pourquoi l'offrande qui est apportée à Shavuot, c'est l'offrande de pain, de lechem, de blé, qui est la nourriture de l'homme. Voilà la différence. C'est clair? C'est-à-dire, il y a un premier niveau qui est très littéralement la libération de la nation d'Israël en tant que nation. C'est au niveau matériel. Par rapport à la fin des temps, ça correspond à la période du Mashiach ben Yosef. Vous voyez la différence entre le Mashiach ben Yosef et la libération proprement nationale, physique, politique, économique, ce que vous voudrez, dans le sens terrestre, hein, historique. Et puis Mashiach ben David, c'est la libération spirituelle. C'est très parallèle à Pessah et Shavuot. Pessah, c'est la nation d'Israël qui est sauvée, les corps. Shavuot, c'est les âmes. Vous voyez la différence. Alors, il y a un décalage d'une période très vulnérable, très, comment dire, très délicate, à dire, comment vous dire, vulnérable. Okay. Et on s'aperçoit que dans l'histoire d'Israël, toutes les catastrophes qui risquent de mettre en jeu, en question, cette libération de l'Égypte se passe dans cette période-là. Remarquez, si vous confrontez avec le calendrier, et après j'arrive au calendrier contemporain, israélien, mais dans le calendrier biblique, précisément, c'est entre Pessah et Shavuot que les catastrophes qui risquent de remettre en question la sortie d'Égypte se passent. Et en particulier, il y a eu une période de l'histoire où les Hachamim ont diagnostiqué que c'était arrivé, cette catastrophe, c'est au temps de Rabbi Akiva. Quel est le temps de Rabbi Akiva? C'est le temps de la conquête de la Judée par les Romains. Et finalement, la grande révolte qui a eu sous la direction de Bar Kokhba et de Rabbi Akiva a échoué précisément dans cette époque-là. Comment la tradition raconte cela? C'est qu'entre Pessah et Shavuot, il y a eu une épidémie qui a une magéfa, on traduit épidémie, mais magéfa, ça veut dire catastrophe, Shoah, qui a décimé, complètement détruit, l'armée de Bar Kokhba, qui était formée par les élèves de Rabbi Akiva. C'était déjà les Bnei Akiva de l'époque. Alors, vous remarquez ce qui se passe. C'est que le terme du Homer désigne d'abord la période entre Pessah et Shavuot. Étymologiquement, le temps que l'on avait pour apporter la gerbe de l'offrande au temple. Pendant cette période-là, depuis toujours, on a vécu une période difficile. Parce que c'est, si vous voulez, entre... pour reprendre l'image de tout à l'heure, l'examen de passage... L'écrit, c'était à Pessah, l'oral, c'était à Shavuot, Torah Sheba'al Peh. Et alors, entre l'écrit et l'oral, il y a une période difficile. Et c'est là, effectivement, que l'histoire nous montre, que se dévoile le temps des événements qui risque de mettre en question l'événement même de la sortie des Juifs. Et alors, effectivement, on a cristallisé une période de deuil depuis le temps de Rabbi Akiva, Bar Kokhba, c'est-à-dire la conquête de la Judée par Rome au temps de la destruction du deuxième temple. La dernière chance de garder l'indépendance, c'était l'armée de Bar Kokhba. Or, l'armée de Bar Kokhba a été détruite par les Romains, et la tradition donne une explication très 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 simple apparemment, mais très profonde. Pourquoi ? Parce que chez les élèves de Rabbi Akiva, il y avait toutes les vertus sauf une. Ils ne s'aimaient pas entre eux. Bien. Or, le principe de la Torah, c'est l'amour du prochain. Par conséquent, si on sort d'Égypte, mais on ne s'aime pas entre eux, entre nous, alors Shavuot n'arrive pas. Vous suivez l'idée ? Est-ce que c'est clair ? Et ce même Rabbi Akiva qui avait dit quoi ? Mais comme c'est lié. Mais je vais faire une petite parenthèse, enfin une grande parenthèse qu'on reprendra d'autre part dans le cours. C'est pas pour rien que la Torah est donnée le jour de Shavuot, c'est-à-dire le jour de Hag Bikurim, la fête des prémices. Vous rappelez la différence entre Caïn et Abel ? L'offrande des prémices, c'est l'offrande de Abel. La Torah ne peut être donnée qu'à celui qui est capable de l'offrande des prémices, parce que lui seul peut être capable de l'amour du prochain. Vous voyez le lien qu'il y a ? C'est clair ? Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à cette époque ? C'est que la sinatrinam, la haine des hommes entre eux, a mis en question la sortie d'Égypte. Et alors, cette magéfa, cette catastrophe, a été interrompue le jour de l'Alba Omer, le 33e jour du Omer, entre Pessah et Shavuot. C'est pourquoi le deuil est levé, l'Alba Omer, qui est le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un des élèves de Rabbi Akiva. Et alors, là, je continue cet exposé, mais vous apprendrez les détails par la suite. Ce qu'il y a d'extraordinairement... Avant d'arriver extraordinairement frappant, c'est le calendrier contemporain qui se situe tout entier là-dedans. Okay? Et vous allez voir dans quel sens. Mais, d'abord, la différence du deuil dans les différentes communautés. Chez les Sfaradim, le deuil commence le lendemain de Pessah, c'est-à-dire depuis Pessah, okay, jusqu'au 33e jour du Homer, et s'arrête là. Vous suivez ? Dans tous les cas, il y a 33 jours de deuil. Chez les Sfaradim, ça commence à Pessah et ça s'achève à l'Alba Omer. Chez les Ashkenazim, le deuil commence le 1er Iyar. C'est-à-dire tout le mois de Nissan, les Ashkenazim ne prennent pas le deuil. Il commence le Rosh Chodesh qui suit. Et ça s'achève à Shavuot avec un jour d'interruption, l'Alba Omer. Ça, c'est pour les Ashkenazim. Je répète pour qu'on comprenne bien la différence. Alors, les Sfaradim, ça commence à Pessah et ça s'arrête à l'Alba Omer. Les Ashkenazim, ça commence à Rosh Chodesh Iyar et ça s'arrête à Shavuot avec un jour d'interruption à l'Alba Omer. Et si vous comptez, vous verrez que ça fait 33 jours dans les deux cas. Bon, ceci dit, il y a beaucoup de communautés, et chez les uns et chez les autres, qui ont les 49 jours de deuil avec interruption à l'Alba Omer. C'est-à-dire depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Ce n'est pas la halakha. Mais si vous faites partie d'une communauté où c'est comme ça qu'on faisait, c'est comme ça qu'on fait. Okay? C'est-à-dire toute la période de deuil. Et alors, ça commence de notre temps un peu à s'atténuer la gravité du deuil, mais c'est un deuil absolu, comme si on avait perdu quelqu'un de la famille. C'est-à-dire on ne se rase pas les cheveux ni la barbe, on ne fait pas de fête, il n'y a pas de musique, on ne va pas au cinéma. C'est un deuil stable. Okay? Et qui commémore quoi ? Précisément cette catastrophe du temps de Bar Kokhba. D'après la Kabbalah, l'événement originel qui est commémoré, c'est la vente de Joseph par ses frères qui a eu lieu à cette époque. Vous voyez que c'est le même sens, la même signification. C'est-à-dire la haine des frères entre eux. Et comment s'appelle Rabbi Akiva ? Akiva ben Yosef. Comment s'appelait Yosef? Yosef ben Yaakov. Arriva a zéro. T'as déjà marqué. Bon, ça, on apprendra par la suite. Alors, vous voyez, le sens décanté, si vous voulez, que vous garderez, c'est cela. Okay. Cette période entre Pessah et Shavuot est une période vulnérable.
Okay.
Oui, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire jusqu'à ce que... Mais vous allez voir que ça a recommencé de notre temps, puisque toutes les commémorations que nous avons, les temps contemporains, tant dans le deuil que dans la délivrance, se situent dans cette période. Vous avez remarqué cela ? Yom HaTzmaout, d'abord Yom HaShoah, okay. Puisque le massacre du ghetto de Varsovie, qui était, si vous voulez, le sommet de tout ce problème, c'est entre Pessah et Shavuot. Yom HaTzmaout, Yom Yerushalayim, et chaque fois on s'approche un peu plus de Shavuot, je ne sais pas si vous remarquez. Ils sont des
questions.
Yom Yerushalayim. Yom HaTzmaout, Yom Yerushalayim, Yom HaShoah, tout est situé là-dedans. Vous voyez, comme si on repousse de cette période. Et Léa, on s'approche de Shavuot.
Pour la grand-mère, pourquoi il y a cette interruption ici à ce jour-là?
Parce que par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, la catastrophe s'est arrêtée. Alors, qu'est-ce que je voulais vous ajouter encore un peu sur ce problème, mais vous devinez que c'est extrêmement vaste comme correspondant, je ne vais pas trop charger ce problème-là. C'est surtout pour prendre conscience de la nature de cette... D'autre part, vous remarquez que la formule du conte du Homer chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim est différente. Et ça vous explique pourquoi le deuil n'est pas pris de la même manière. Alors, je vais vous dire rien que l'idée générale, mais on réduira ça un peu plus en détail par la suite. La formule du Homer, vous vérifierez dans vos Sidourim, chez les Ashkenazim, c'est de compter. Dans tous les cas, on compte les semaines et les jours. Lisez avec moi. Lisez à partir du verset 15. Vous partez le matin du Mahorat à Shabbat. Et vous compterez pour vous, depuis le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire depuis le lendemain de Pessah, depuis le jour où vous amènerez la gerbe du balancement, littéralement, enfin, la gerbe du rite de la gerbe au temps, Shevar Shabbatot, 7 semaines, Temimot, parfait, Iyena, elles seront parfaites. 7 semaines complètes. Et à la fin du 49e jour, cette fois 7-49, commence le jour de Shavuot, c'est le 50e jour. Avi Mahorat Shabbat Hashevi'it, jusqu'à la fin de la 7e semaine. Tisperu Hamishim Yom, vous compterez 50 jours. Et vous apporterez l'offrande nouvelle qui est l'offrande de blé. Ça y est, c'est clair ? Bon. Et alors, voyez ce qui se passe. On doit compter 7 semaines et 50 jours. En fait, on fait le compte du Homer que 49 jours. 7 semaines. Et le 50e est donné comme complément. On a appris déjà cela. Vous voyez, c'est les degrés que vous devez passer de Pessah à Shavuot. Si on est arrivé jusqu'à 49e degré, le 50e est donné. Mais si on n'est pas arrivé au 49e, le 50e n'est pas donné. À quoi ça correspond ? C'est que Israël était libre pendant tout le chemin qui arrivait au Sinaï. Arrivé au Sinaï, plus de liberté. C'est donné. Vous vous rappelez de cela ?
Oui.
La montagne. Vous voyez, c'est clair.
C'est ça. Ça rejoint aussi ce que vous disiez quand vous disiez que les tzadikim n'aspirent qu'à une chose,
c'est parallèle, oui. Attendez, pas n'importe quelle liberté. La liberté change le bien et le mal, mais pas n'importe quelle liberté. La liberté d'être tzadik, c'est autre chose. Mais chez les Ashkenazim, on compte les jours. Et chez les Sfaradim, on compte les semaines. Enfin, je vais vous dire les deux brachot prenez aussi de rimes, comme ça, ça sera beaucoup plus clair. Ou dans vos agadons. Ah non, dans les agadons, vous n'avez que le premier jour. Alors, c'est pas visible. Bon, apportez un sidour ashkenaz et un sidour sfarad. Bon, et ça c'est ashkenaz ou sfarad, j'en ai deux. Il est ashkenaz, bon. Alors tu diras qu'il me monte un thé ashkenaz. Ou sfarad, peu importe. Voilà. Reprenez les petits. Qui a porté deux Ashkenaz et un.
Non, je vais trouver parce que.
Ça va être, c'est les mêmes. Mais je ne sais pas où il est en ici. À qui est celui hein? Tu sais où il est en là ben, tu le trouves parce que je ne suis pas habitué à celui.
En général, c'est la fin d'Arabie, ça.
Ça dépend des livres. Tiens, tu vas mettre. Ça c'est Sfarad. Voilà, si je prends par exemple bon, ça va, je vais prendre celui-là. On va prendre une phrase. Vous suivrez sur le livre. Voilà, très bien. Voilà, je prends la formule des Ashkenazim, par exemple, au 13e jour du Homer. Alors voilà comment on compte. Ayom, Shlosha Asar Yom. Aujourd'hui, c'est 13 jours. Vous suivez ? Shehem, Shavua Rechad, Veshisha Yamim, La Homer. Qui sont une semaine et 6 jours du Homer. Alors dans la formule des Ashkenazim, je répète. Le 13e jour, on dit, je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. N'importe, il n'y a aucune importance. C'est. Ayom, Shlosha Asar Yom, aujourd'hui c'est 13 jours, Shehem, Shavua Echad, qui sont une semaine, et Shisha Yamim, la Homer, et 6 jours du Homer. Donc dans cette formule, qu'est-ce qu'on compte? Je veux dire, qu'est-ce qu'on identifie comme étant du Homer, les jours ou les semaines? Les semaines. C'est clair? Vous tenez bien. Alors que la formule Sfarad est juste l'inverse. Alors oui, c'est le 13e jour. Ayom, Shlosha Asar Yom, la Homer. Aujourd'hui, c'est le 13e jour du Homer, Shehem, Shavua Echad et Shisha Yamim, qui sont une semaine et 6 jours. Donc là, on compte les jours. Quelle est la différence? Dans tous les cas, pour vous aider un peu, c'est la période qui va de Pessah à Shavuot. Ou bien je compte le temps qui me sépare de Pessah, ou bien je compte le temps qui me sépare de Shavuot. Bien. Dans quel cas j'ai compté le temps qui me sépare de Shavuot? Quand j'ai dit Homer pour les semaines ou pour les.
Pour les semaines, c'est ce qui sépare le Shavuot.
Ben
pour les semaines, c'est ce qui sépare.
Les choses sont claires dans votre tête?
Non, okay.
C'est pas clair. Voilà, la Torah nous dit, vous comptez 7 semaines, 50 jours. Donc on compte les semaines et les jours. Mais dans le rite Sfarad, on compte les jours suivant leur Homer. Aujourd'hui, 13e jour du Homer. Okay. Ça veut dire.
Ça, c'est pas un jour.
Réfléchis. Aujourd'hui, 13e jour du Homer. Ce qui fait une semaine et 6 jours. Une semaine et 6 jours, c'est par rapport à Shavuot. Mais 13 jours, c'est par rapport à Pessah. Vous voyez, c'est clair? Bon. Donc, dans le rite Sfarad, où on compte les jours, la référence c'est quoi? Shavuot ou Pessah? Pessah. Et dans le rite Ashkenaz, on compte les semaines, la référence c'est Shavuot. Je vais vous donner la réponse parce que vous ne pouvez pas la deviner. dans le peuple juif ashkénaze, ce qui est déjà acquis, c'est Shavuot. Ce qu'il faut acquérir, c'est Pessah. Tandis que chez les Sfaradim, c'est l'inverse. Ce qui est déjà acquis, c'est Pessah. Ce qu'il faut acquérir, c'est Shavuot. Sur quel plan? La libération nationale, la libération spirituelle. Vous pouvez rencontrer ce problème de 70 manières différentes, mais l'essentiel est là-dedans. Okay? Et une polarité différente. Okay? C'est-à-dire, soit la référence fixe, c'est les 50 jours, ou la référence fixe, c'est les 7 semaines. Alors, si on compte d'après les semaines, on est relié à Shavuot. Si on compte d'après les jours, on est relié à Pessah. Tu es? Bon, je vais vous dire d'une autre manière, en termes un peu plus sionistes, si vous voulez. Mais je pense que vous avez compris. Hein. Israël se définit d'après la Torah ou d'après la sortie d'Égypte. Ceux pour qui la référence à la Torah s'est déjà intégrée doivent obtenir la sortie d'Égypte. Ceux pour qui la sortie d'Égypte s'est déjà intégrée doivent obtenir la Torah. Et c'est clair? Il y a, ça va un peu vous compliquer les choses, mais vous allez vous habituer à cela. Il y a un entrecroisement des bénédictions. Ça veut dire que celui qui est naturellement donné à Shavuot a pour tâche d'obtenir Pessah, et celui qui est naturellement donné à Pessah a pour tâche d'obtenir Shavuot, qu'on s'en est sûr que les deux seront obtenus. Parce que si quelqu'un prend pour idéal ce à quoi il est donné naturellement, ça finira par se séparer. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Il y a deux vertus à réaliser. Et puis, on est donné naturellement ou à l'une ou à l'autre. Alors on charge celui qui est donné naturellement à l'une d'obtenir l'autre, et réciproquement. Parce que sinon, on se sépare.
Parce que d'une certaine manière, après la Shoah, on ne peut pas dire que ceux qui étaient donnés à la Torah ont intégré d'une certaine manière la sortie d'Égypte.
C'est une étape. C'est une étape. C'est un chemin. Ça veut dire que. Je ne sais pas comment vous dire ça. Prenez la main droite et la main gauche. Okay. Alors la main droite va naturellement à droite. La main gauche va naturellement à gauche. Alors on va donner comme consigne à la main gauche d'aller à droite. Et à la main droite d'aller à gauche, comme ça on se sert de main. Sinon on s'écarte.
Mais comment
on peut
acheter naturellement la Torah?
Attention aux mots en français. Dans le raisonnement avec les mots français, on va aller ailleurs. Regardez l'idée. Dans le monde ashkénaze, ce qui est naturel, c'est de se définir par rapport à la Torah. Eretz Israël, le Messie. Donc, dans le monde Sfarad, c'est l'inverse. Ce qui est naturel, c'est de se définir par rapport à Eretz Israël. La Torah, eh bien, il faut la faire. Okay. Alors, finalement, ça finit par se rejoindre. Ça y est, c'est clair?
Parce que
après, comme l'armée qui est très bien ashkénazi. Et c'est pourquoi, si vous remarquez bien, le sionisme est sorti des Ashkenazim alors que la Kabbalah est sortie des Sfarad.
Ah, c'est Mashiach
Ben David, c'est Mashiach. C'est pas vrai. Mais alors, il faut d'abord Mashiach Ben Yosef. Mais non, ne croyez pas que c'est des blagues, tout ça. C'est malheureusement très profond. Parce que, à force de ne pas se rappeler, on oublie. De qui est Joseph? De qui est Joseph? Le fils de qui est Joseph? De Jacob. Et on a déjà appris cela. Le monde ashkénaze a vécu l'histoire de Jacob chez Ésaü. On a déjà identifié cela, oui? C'est-à-dire, l'histoire de la galoute du monde ashkénaze, c'est Jacob chez Ésaü. L'histoire de la galoute du monde Sfarad, c'est Isaac chez Ishmael. C'est clair. Okay. Quand on vous dit le judaïsme Sfaradi, c'est espagnol. Il n'y a jamais eu d'espagnol, pas plus que. C'était arabe. C'était l'Espagne des Arabes, c'était pas l'Espagne des chrétiens. Ensuite, ça a été traduit en espagnol. En Espagne. Vous comprenez ce que je veux dire? si vous voulez, l'identité sfarade, elle est judéo-arabe, elle n'est pas judéo-espagnole. Alors que l'identité ashkénaze est judéo-allemande. Mais derrière judéo-allemand, il y a le monde occidental. Derrière judéo-sfaradi, mais c'était des sfaradim des arabes, il y a tout l'islam. Le monde sfarade, c'est Isaac chez Ishmael. Et vous remarquez que la galoute du monde sfarade est achevée. Il n'y a plus d'Isaac chez Ishmael. Tous les sfaradim qui sont dans la Gola sont chez les Ashkenazim. Ils ne sont plus chez Ishmael. Sauf symboliquement une petite communauté au Maroc, jusqu'à ce que le roi Hassan II ait encore sa couronne. Mais dès que Hassan II sera déposé, c'est fini. Et ce n'est dans pas longtemps. Donc, si vous avez des amis au Maroc, écrivez-leur. On a beau leur dire, hey, putain, fou. Mais vous remarquez cela, que toutes les communautés juives, et Dieu sait qu'elles ont été florissantes à leur époque, du monde de l'islam, ont quitté la Galilée. Oui, prisonniers. Tu parles. Les Russes, c'est Ashkenaz. C'est écrit dans la Midrash d'Esther, la suite est russe.
Mais je comprends pas. Simplement, je veux dire que c'est une fac chez Ishmael, alors qu'on avait déjà dit une fois que vous avez déjà dit une fois que les séfarades étaient midat à Chesed. Et on avait dit que une fac c'était midat
à Chesed. Tu raisonnes toujours à moitié. La mida originelle de Yitzhak, c'est la mida d'Adid. Par conséquent, l'idéal qu'il a à réussir, c'est la mida d'Adid. C'est pourquoi les Sfaradim sont de la Midat HaChesed. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de la Midat HaChesed. Alors les Ashkenazim, c'est l'inverse. Et là, mais jamais remarqué cela que, par rapport à la pratique de la Torah, un psak Ashkenaz est toujours beaucoup plus dur qu'un psak Sfarad. Parce que les Ashkenazim avaient pour objectif de réussir la Midat HaChesed. Et ils y sont arrivés. Il n'y a pas plus Midat HaChesed qu'un psak Ashkenaz. Alors que les Sfaradim, c'était l'inverse. Et vous voyez que c'est très simple, mais il faut d'abord apprendre énormément de choses compliquées avant d'arriver à cette simplicité-là. Ne vous affolez pas, c'est très simple. Seulement, il vous faut des années et des années de familiarité. Vous verrez à quel point c'est simple. Alors, je continue. Là, il est bien clair que, l'identité de la galoute sfaradite s'est achevée de notre temps. Comprenez bien cela. Tous les Sfaradim qui ont quitté la galoute d'Ishmaël et qui ne sont pas allés avec Israël sont allés rejoindre les Ashkenazim. C'est pas plus compliqué que ça. Tous les Sfaradim qui sont en Gola sont en terre Ashkenaz. Et c'est la raison pour laquelle il y a tel drame dans les communautés Sfarades de la Gola, parce qu'avec une naïveté profonde, ils croient qu'ils sont Sfaradim alors qu'ils sont déjà Ashkenazim. Non, allez, non. Mais vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur la réalité. Laissez-moi parler. Non, je vous en parle parce que c'est très important à savoir, si vous retournez en Israël, d'ouvrir les yeux. Vous croyez que c'est par hasard? Vous savez, le conduit, je vous oublie. La France, c'est une terre ashkenaz. Alors, vous avez des communautés entières qui sont arrivées en France en croyant qu'elles vont rester sfarades en France. Elles ont choisi le mode de vie ashkenaz. Et alors ça se fait lentement à travers les écoles. Vous croyez que c'est par hasard que, bien sûr il faut garder ce qu'on veut, mais il faut faire attention à ce que ça ne soit pas du folklore. Parce qu'à partir du moment où c'est du folklore, ça n'a plus aucune valeur. Qu'est-ce que c'est un juif sfarade en France? C'est un juif ashkenaz qui mange du couscous. Ça change quoi? Vous voyez le problème? Mais je suppose que vous avez vécu ces problèmes-là. Bon, mais c'est pas par hasard. C'est-à-dire les chefs de famille ont choisi lucidement d'opter pour le genre de vie des communautés ashkenazes, c'est-à-dire la civilisation occidentale et pas orientale. Alors, les conséquences, elles sont très claires. C'est que vous avez des écoles où le directeur est sfarade, les professeurs sont sfarades, tous les élèves sont sfarades, mais le riz est ashkenaz. Et on se demande, qu'est-ce qui arrive? Qui arrive? On est en terre ashkenaz. C'est clair. Vous avez remarqué ça? Il y a un seul endroit où le rite sfarade pourrait se perpétuer, c'est Israël. C'est tellement évident. Bon, nous aurons un juif israélien dans l'avenir. L'israélisme sera bien Ashkenaz, d'origine des deux, oui. N'est-ce pas? Alors, c'est ça dont il faut bien prendre conscience. C'est que la galoute de Farad a pris fin. C'est-à-dire, tout se passe comme si elle a réalisé ses objectifs, comme on dit en termes d'état-major. Okay? Alors que la galoute Ashkenaz n'a pas pris fin. Elle a pris fin en partie. Mais elle a donné Joseph, qui est le fils de Jacob. Ça y est, c'est clair? Et maintenant, on attend la Machia Ben David. Alors, vous allez me donner un livre de Bereshit et je vais vous montrer comment un commentateur Ashkenaz annonce que le Machia Ben David.
כשיפול ישמעאל כאחרים
לא באחרית הימים
יהי יפת משיח בן דוד פתוח מתולדות יצחק המילה הזאת
Voilà, la fin de la paracha de Chaye Sara, c'est la fin d'Ishmael. Alben et Kolecha Zafal, il est tombé à la fin de tous ses frères. Et juste après, il y a Elé Toldot Yitzhak. Et voici les enseignements d'Yitzhak. Alors le Vada Turin dit ceci. C'est pour te dire que chez Paul Ishmael, que lorsque Ishmael tombera, Be'achavit Ayamim à la fin des temps, Az Itzmach, alors germera Ben David, le fils de David, Shehu mitoldot Yitzhak, qui est de la génération des engendrements de Yitzhak. Alors, c'est Valatourim. Hein? Voilà. Le dernier verset de la paracha de Chaye Sara raconte la fin d'Ishmaël. Et juste après, le verset suivant, c'est les engendrements d'Isaac. Alors, ici, le Valatourim cite le Zohar. Le Zohar demande pourquoi on a joint ces deux idées. La fin d'Ishmaël et Isaac commence à engendrer. Alors c'est pour nous dire, quand Ishmael tombera à la fin des temps, alors germera le Machir Ben David, qui est de la descendance d'Isaac. Et le Zohar pose la question, mais il est de la descendance de Jacob, pourquoi d'Isaac? C'est clair? Vous voyez la différence? Bon. Et alors, je vais vous expliquer très brièvement. Et le problème qu'il y a entre Isaac et Ishmael, c'est la terre. La terre d'Abraham. C'est clair? Alors que le problème qui entre Jacob et Esaü, c'est le ciel, qui est Israël. C'est clair? Bon. Alors, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que tant que Isaac est vivant, Jacob ne peut rien contre Esaü. C'est pas l'inverse. Esaü ne peut rien contre Jacob. Okay? Et tant que Jacob est vivant, Ishmaël ne peut rien contre Isaac. Est-ce que vous suivez là au lieu de rire? Et. Tant que, suivez-moi, parce que il y a derrière tous les textes que vous n'avez pas encore lu, c'est bien en clair dans le récit de la Torah. lorsque Ésaü a décidé de tuer Jacob, il y a un verset qui dit très clairement, lorsqu'arriveront les jours de deuil de mon père Isaac, je te tuerai. C'est-à-dire, tant qu'Isaac est vivant, je te rencontre. Okay. Vous suivez ce schéma? Ça veut dire, tant que Isaac est vivant, Ésaü ne peut rien contre Jacob. C'est-à-dire, tant que la communauté de Sfara existe, et c'est par le mérite de la Kabbalah, le christianisme ne peut rien contre le judaïsme. C'est clair. Alors qu'en Occident, le judaïsme était en train de disparaître dans l'assimilation dans le monde chrétien. Quelle a été la réaction contre la christianisation des juifs? La Kabbalah. C'est clair. Mais d'où elle est venue? Des Sfarades. Vous avez compris? C'est-à-dire, la force spirituelle vient de Isaac, qui n'a jamais quitté le Tisraël. Or, vous voyez qu'il y a deux combats différents. Hein? Le combat spirituel de Jacob et d'Ésaü, c'est Isaac qui vient au secours de Jacob. Vous voyez, c'est clair. Bon. Tandis que le combat historique, politique, de Isaac contre Ishmaël pour la terre d'Israël, c'est Jacob qui vient au secours de Jacob. Comment? Joseph. Vous voyez, c'est clair. Or, d'où est sortie la force politique contemporaine d'Israël contre Ishmaël? Pas des Sfaradim, des Ashkenazim. Et d'où est sortie la force spirituelle contre la chrétienté? Pas les Ashkenazim, les Sfaradim. Vous remarquerez une chose, je vous schématise beaucoup, mais vous compreniez le schéma. Il n'y a aucune controverse de rabbin Ashkenaz avec les chrétiens. Tous, c'est des Sfaradim. Pourquoi? Et je vous parle du Moyen-Âge, où les controverses étaient importantes. Parce que précisément, le problème qu'il y a entre Jacob et Ésaü, Isaac ne l'a pas. C'est-à-dire, Isaac est décontracté vis-à-vis des chrétiens. Jacob, il se demande qui c'est, lui ou moi. Okay. Jusqu'à ce qu'il devienne Israël. Vous suivez la différence? Bon. Alors, d'une certaine manière, et je vous dirai les choses comme elles sont, très simplement, il y a toujours eu des juifs, et ils étaient tous Sfaradim pendant 2000 ans dans le pays. Mais ils étaient asservis par Ishmaël. Les Ashkenazim sont arrivés, il y a eu la libération nationale. Tzahal est sorti des Ashkenazim. Quand j'ai dit Tzahal, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Sfaradim dans Tzahal, mais c'est sorti des Ashkenazim. C'est clair? Et quand je dis la Kabbalah sont des Sfaradim, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Ashkenazim qui sont Kabbalistes. Il y en a beaucoup, mais c'est sorti des Sfaradim. C'est-à-dire qu'il y a la collaboration de deux forces, un aidant le problème de l'autre. Vous savez, c'est clair? Les Ashkenazim ont libéré la terre, et les Sfaradim ont libéré le ciel. C'est pas plus compliqué. Vous voyez? Alors maintenant, je vais vous donner une indication. À quoi vous rattachez ça? La manière différente de lire la Homère. Regardez d'où ça vient.
C'est aussi un...
Parce que un est polarisé. On appelle ça, il faut...
Donc. C'est pas attaché aux deux camps qu'il y avait dans le ciel, le même après.
C'est parallèle, mais c'est pas le même problème. Pas le même problème. Okay.
Donc il fallait des parades d'Ashkenaz, il fallait la chrétienté islam.
Bon, ça fait partie de, comment dire, l'analyse de la civilisation universelle, du quatrième empire qui est Edom et Ishmael, Edom en tête, et... mais je veux dire, c'est que... il y a une situation historique. Quand Israël est parti en exil, il est parti en exil dans deux dimensions différentes. Mais on a appris ça un peu sur la relation avec la diaspora. Une dimension est allée dans le monde chrétien. Le type juif qui en est résulté, c'est le type Ashkenaz. Une dimension est allée dans le monde musulman. Le type juif qui en est résulté, le type Sfarad. C'est-à-dire, quand les Sfaradim se réclament de l'identité espagnole, et Rachel comprend ce que je vais dire, c'est une péripétie contingente. En réalité, l'identité Sfarad et judéo-arabe, de la même manière que l'identité ashkénaze et judéo-romaine. Vous comprenez le fond du problème. Okay? Les bilboulines qu'il y a eu à travers l'histoire, c'est la complexité de l'histoire, mais les grandes dimensions restent. C'est clair? Et alors, il n'y a pas de doute que pendant 2000 ans, le sionisme a été Sfarad et impuissant. Et quand les ashkénazim sont devenus sionistes, le sionisme a triomphé. Donc c'est ça qu'on attendait, que Joseph sorte de Jacob. Vous suivez? Et qui a libéré la terre? C'est le sionisme politique. Bon. Qui lutte contre Ésaü, c'est-à-dire le Vatican? C'est le monde séparable. Ça peut vous paraître paradoxal, Et ce sont les fêtes. Alors il faut bien réfléchir d'où ça vient, où ça va. Mais je vous donne simplement une description. Chaque fois qu'il y a une controverse judéo-chrétienne et que c'est un Ashkenaz qui est en face des curés, nous on tremble parce qu'on ne sait pas ce qu'il va dire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand il y a un spava dans les tranquilles, parce qu'il sort du monde musulman et il n'a pas du tout ce problème qui est Israël, moi le juif ou toi le goy. Non, c'est un univers radicalement différent. Est-ce que c'est clair ? Toutes les complaisances que vous entendez vis-à-vis des chrétiens, ça sort des Ashkenazes. Vous n'avez pas remarqué ça ? On leur fait la cour. C'est Jacob qui se courbe devant Esaü. Isaac, rien à voir avec ce problème. Il connaît son fils, les deux. Vous avez compris le... c'est très différent comme approche du problème. Et les chrétiens le savent. Au Moyen-Âge, qui controversé avec les jésuites, les dominicains, les sparadimes. Vous n'avez pas trace de controverse. Et je vous dirais plus, c'est une tradition chez les Ashkenazim d'interdire le dialogue avec les chrétiens. Et il vaut mieux, parce que Jacob et Esaü, on ne sait pas ce qu'il va y dire. C'est grâce à Joseph que Jacob devient Israël. Et Joseph, c'est celui qui écrase Esaü. Cite-nous, je reste. Alors, vous voyez comment se passe la collaboration de ces deux forces. Isaac sauve Jacob et Jacob sauve Isaac. Vous voyez, c'est clair ? Bon. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que le cycle Sfarad a pris fin. Maintenant, tout le. Comment dire, l'ensemble des forces d'Israël, c'est dans le problème de Jacob. Le problème d'Isaac, il est réglé. On est passé au cycle suivant. Quelle heure il est ?
Il est réglé.
Déjà. Bon. Alors on va s'arrêter là, on recommencera demain. On rappelle vous.
Est-ce que ça sous-entend que c'est les femmes qui vont sortir les
Ashkenazes ? Ça, c'est un peu d'optimisme.
J'ai acheté un cadeau pour. J'ai acheté un papier. Et un petit enfant. Et un petit enfant.